France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La décision a été inattendue et inédite. Elle légitime en quelque sorte la désobéissance civile. Au tribunal correctionnel de Lyon, hier, le juge a relaxé deux décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. Ils avaient décroché la photo du président dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon en février dernier pour protester contre le manque d'investissement de l'exécutif face au changement climatique. Le juge a reconnu hier le vol, mais estime que la réalité du dérèglement climatique légitime le décrochage. Les militants ont agi dans le cadre d'un devoir de vigilance critique, selon ce juge. Le parquet a fait appel de cette décision. Emmanuel Macron, lui, hier soir, était face aux parlementaires de la majorité. Une réunion à huis clos, lors de laquelle le chef de l'État a appelé les députés, sénateurs LREM et du Modem à durcir le ton en matière d'immigration. À 15 jours d'un débat organisé à l'Assemblée nationale et à 6 mois des élections municipales, Emmanuel Macron ne veut pas, dit-il, abandonner ses questions d'immigration au Rassemblement national. Selon Donald Trump, il semble que Téhéran soit responsable des deux attaques de drones sur des installations pétrolières saoudiennes. Il reste, souligne toutefois le président américain, il reste à le déterminer avec certitude. Donald Trump dit vouloir éviter un conflit avec l'Iran. L'Arabie Saoudite, de son côté, va inviter des experts pour enquêter sur ces attaques sur le terrain. Les Israéliens sont appelés à élire aujourd'hui, mardi, les 120 députés de la Knesset pour la deuxième fois en 5 mois. Le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, joue sa survie politique après avoir échoué en avril dernier à former un gouvernement de coalition. Les sondages placent son parti de centre droit, le Likoud, au coude à coude avec la coalition centriste bleu et blanc de Benny Gantz. Enfin, notons qu'Aigle Azur a obtenu quelques jours de répit. Le tribunal de commerce d'Evry, hier, a décidé de la liquidation de la compagnie aérienne française. Mais elle accorde aussi une poursuite de l'activité jusqu'au 27 septembre. Les 150 salariés seront donc payés jusque-là. Et les repreneurs potentiels ont encore 2 jours pour étoffer leurs offres.
Il se présente comme anticollapsologue.
Sur France Culture, de nouveaux rendez-vous quotidiens consacrés à l'actualité de la vie des idées, de la culture, de l'histoire, de la philosophie, des sciences.
La trottinette électrique pouvait aussi sembler rapprocher en un élan l'insouciance des premiers moments à l'inquiétude de la fin des temps.
Des chroniques à écouter sur l'antenne et à retrouver sur notre site dans la rubrique Le Fil Culture, complétée par des décryptages, enquêtes et vidéos.
Le plus respecté des photographes n'a cessé de s'en prendre aux images.
L'actualité de la culture, des savoirs et des idées, à l'antenne et dans Le Fil Culture sur franceculture.fr.
Le mercredi 25 septembre, à 20h, à l'auditorium de Radio France, le chef d'orchestre slovaque Juraj Valčua dirige l'Orchestre National de France dans la deuxième symphonie de Rachmaninov. Tantôt mélancolique, tantôt héroïque, toujours lumineuse. Les gigantesques vagues orchestrales, les tourbillons de sons et de notes vous emporteront. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Toufik Hakam est à vos côtés pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakam.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel en direct à la radio tôt le matin de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou mieux l'abonnement au podcast du Réveil culturel disponible entre autres sur l'application de Radio France ou en quelques clics à partir de la page franceculture.com. Tous les mardis, on parle de l'actu des expos dans le Réveil culturel et aujourd'hui on va parler de l'exposition Mandrian figuratif. Mandrian figuratif, deux mots qu'on a priori du mal à associer. Mandrian est connu pour ses petits carreaux bleus, rouges, jaunes sur fond blanc, séparés par des grandes lignes épurées noires. Mais avant de devenir le grand peintre de l'art abstrait, l'artiste néerlandais a eu une autre vie et une œuvre méconnue. Ainsi, avant d'être inspiré du cubisme de Braque et de Picasso qui vont le mener vers l'abstraction, Mandrian a peint des paysages, des moulins, des arbres, des fleurs, quelques portraits, et quelques autoportraits d'ailleurs. Impressionnant, ces toiles rares seront pour la première fois montrées à Paris. Mondrian, figuratif, une histoire inconnue. C'est au musée Marmottan dans le 16e arrondissement à Paris jusqu'au 26 janvier. La commissaire de l'exposition, Marianne Mathieu, est mon invitée ce matin.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Je suis Piet Mondrian. Vous connaissez mon œuvre abstraite ? Je vais vous étonner. J'ai toujours follement aimé la peinture figurative. Tout au long de ma vie, j'ai peint des paysages, des personnages, des fleurs. Venez découvrir cet aspect méconnu de mon œuvre.
Alors, c'est pas la voix de Piet Mondrian, on est bien d'accord, Marianne Mathieu, bonjour.
Bonjour. Non, ça n'est pas la voix de Piet Mondrian, mais finalement, ça retrace bien son chemin et son parcours.
Et ça résume bien cette exposition assez exceptionnelle au musée Marmottan Monet. On le sait, Mondrian est connu plutôt par ses peintures abstraites, aux lignes épurées, ses carrés rouges, jaunes et bleus, artiste pop avant l'heure, célébré partout, y compris dans le monde de la mode, quand on se souvient bien sûr de la fameuse collection Yves Saint Laurent. Mais l'exposition actuellement donc est jusqu'en janvier au musée Monet Marmottan, met l'accent sur son œuvre figurative avec 67 tableaux exposés pour la première fois en France. Et c'est un événement parce qu'on voit un autre Mondrian avec ses tableaux assez incroyables, des paysages, des portraits, et avec cet intitulé, bien sûr, Mondrian figuratif. Alors, pour tout vous dire, Marianne Mathieu, on est allé voir cette exposition avec curiosité pour essayer de voir dans cette œuvre de jeunesse les prémices de l'art abstrait et épuré qui vont consacrer le peintre. Mais cela dépasse même l'œuvre de jeunesse. On est d'abord vraiment très surpris de voir ses peintures.
Alors ça n'est pas une œuvre de jeunesse, c'est une œuvre de maturité. Et les œuvres qui sont présentées, elles sont surprenantes parce que figuratives, mais elles figurent au rang des chefs-d'œuvre. Ce sont des peintures qui sont éclatantes de couleurs, de diversité, de dynamisme. Mondrian est un grand maître figuratif, et donc il n'a pas fait de la figuration à 19 ans pour ensuite devenir un peintre abstrait.
Mondrian... C'est ce qu'on croyait. Hein, on l'a étalé en disant c'est l'œuvre de jeunesse, c'est avant que Mondrian devienne Mondrian tel qu'on le connaît.
Mondrian est figuratif jusqu'à 50 ans. Voilà. Et c'est ce qu'on voit dans cette exposition. On voit d'une part, j'allais dire, le meilleur de ce Mondrian figuratif. Alors c'est n'est pas n'importe quel meilleur, parce que toutes les toiles qui sont présentées ont été choisies par Mondrian lui-même pour qu'elles soient acquises par un de ses collectionneurs et qu'il les lègue à un musée. Donc c'est le meilleur de ce Mondrian figuratif. Et on voit bien dans l'exposition qu'il y a un parcours complètement chronologique, que Mondrian n'est pas quelqu'un qui va du noir à la couleur, de la figuration à l'abstraction, mais que les deux s'entremêlent. Et que la même année, Mondrian peut peindre un moulin d'un rouge éclatant sur un bleu nuit dérangeant et une peinture cubiste, c'est-à-dire avec des camaïeus de gris où la couleur est complètement mise entre parenthèses. C'est un chercheur et c'est quelqu'un finalement qui fait preuve d'une ouverture d'esprit qui est tout sauf iconoclaste.
Mais alors, est-ce que ces tableaux qu'on voit pour la plupart, pour la première fois en France, ce sont des tableaux que Mondrian a réalisés durant sa carrière ou ça reste quand même une période de sa vie ?
Alors l'exposition présente principalement des œuvres qui vont de 1891, donc il a 19 ans, jusqu'à 1920, donc il a 50 ans. Et Mondrian est un peintre figuratif, on pourrait le dire, jusqu'à 50 ans. Mondrian n'est pas quelqu'un qui va renier sa peinture de jeunesse, au contraire. C'est quelque chose qui se vit dans la continuité. Et pour exemple, l'exposition se termine sur une peinture néoplasticiste, ces fameuses peintures que vous décriviez et que l'on connaît. Et juste à côté, on a une œuvre qui lui est complètement contemporaine. C'est une rose, superbe rose sur fond jaune. Eh bien, Mondrian, tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort, le matin quand il se lève, de la même manière qu'un musicien va faire ses gammes, eh bien lui, il peint une rose.
Est-ce qu'il a été victime de son succès, Mondrian ? De ce qui a fait son succès, plutôt, Marianne Mathieu ? Parce que ses œuvres, pour la plupart, sont présentées pour la première fois. Elles ne sont pas connues. Elles ne signent pas le fameux style Mondrian.
Alors ça, c'est une lecture a posteriori de l'œuvre de Mondrian. Mondrian meurt en 1944 aux États-Unis. Lorsqu'il s'installe aux États-Unis, il arrive sans œuvre, les mains nues, et la majorité des œuvres qu'il produira là-bas sont des œuvres abstraites. Ce sont des œuvres abstraites, mais d'ailleurs pas seulement. Hein. Il fera aussi une peinture alimentaire, qui est une peinture de fleurs, et qui sont des œuvres extrêmement belles et très importantes. Et c'est le moment où on écrit l'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art que l'on souhaite écrire, à laquelle on souhaite donner un sens, eh bien, elle va dans le sens de l'abstraction. Et donc, il y a des impasses artistiques qu'on condamne à cette époque-là. Par exemple, l'une des grandes impasses artistiques, c'est l'impressionnisme et c'est Monet. Donc, Monet n'est pas représenté dans l'exposition inaugurale du MoMA en 1929. Et le Mondrian figuratif, eh bien, est mis au purgatoire de l'histoire de l'art par les historiens de l'art qui considèrent que ça n'est pas Mondrian. C'est une lecture qui est faite par les historiens de l'art. C'est une lecture posthume, car Mondrian lui-même n'a jamais opposé l'un à l'autre.
Donc vous proposez une contre-histoire de la vie et de l'œuvre de Mondrian.
Une contre-histoire ou tout simplement la rétablir dans sa chronologie et dans sa réalité. Puisque Mondrian n'oppose pas la figuration et l'abstraction, elle révèle toute la même chose. Alors qu'est-ce qu'il veut peindre, Mondrian ? Mondrian, il est comme Monet. Il peint toute sa vie la même chose. Monet veut peindre la lumière. Alors, au début, il a une peinture de jeunesse avec des visions panoramiques, et puis à la fin, eh bien, il peint la lumière à travers la représentation d'une fleur, le nymphéa. Mondrian, il le dit, dès le début de l'exposition, on l'écrit, il essaie de peindre des paysages intérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paysage intérieur ? Qu'est-ce que c'est que l'essentiel ? C'est quoi l'essence des choses ? Eh bien, c'est la question qu'il se pose. Il ne sait pas. Il n'a pas la réponse et donc il cherche. Et on voit bien dans cette recherche que Mondrian, tous les tableaux qui sont présentés, on a pris par exemple le Moulin qui est la ligne rouge de l'exposition avec des œuvres qui sont extraordinaires de présence, de rythme, de couleur.
On est tout à fait d'accord. On va s'arrêter justement sur ces moulins, Marianne Mathieu. Est-ce que vous, qui êtes spécialiste de l'art, historienne de l'art, en plus d'être commissaire de cette exposition et vous travaillez en tant que conseillère scientifique au musée Marmottan-Monet, est-ce que vous, en voyant ces œuvres, ces tableaux, c'est-à-dire les fameux moulins de Mondrian, vous reconnaissez le Mondrian tel qu'on le connaît, tel qu'il a été connu de par le monde entier ?
Quand je vois ces tableaux déjà, je suis émue. C'est une émotion esthétique, artistique, quelque chose que je n'ai jamais rencontré. La réunion des œuvres qui sont là sont...
Elles sont très belles, ces œuvres, surtout cette série sur les moulins, surtout ce clair-obscur, mais on est très loin du Mondrian qu'on connaît.
Eh bien moi, j'ai, à travers cette exposition, et je crois que c'est ce qu'on essaie de montrer, compris que Mondrian peint la même chose toute sa vie. Et aujourd'hui, quand je vois un moulin de Mondrian, je vois Mondrian, rien que Mondrian, complètement Mondrian. Que fait Mondrian ? Il veut peindre l'essence des choses. Alors il commence par une peinture grise, parce qu'on peint gris à cette époque-là aux Pays-Bas. Puis il s'aperçoit qu'à essayer de restituer l'atmosphère de la nature, d'avoir finalement une peinture qui est empreinte d'un certain réalisme, il ne peut pas en restituer l'essence. Donc il va tenter d'explorer les ressources qui sont les siennes, et d'explorer la couleur. Et à partir de là, il a une utilisation très expressive de la couleur. Et là, on passe de couleurs qui sont grises, à des jaunes éclatants, des rouges éclatants.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire oublier tout ce qu'on a appris avec l'école de La Haye ?
Oui, c'est oublier tout ce qu'on a appris et c'est chercher. C'est chercher avec tous les moyens du peintre. Et donc, Mondrian va peindre ces magnifiques paysages panoramiques avec ses moulins, d'ailleurs des compositions très orthogonales, et qui laissent finalement deviner ce qu'il fera plus tard. Puis Mondrian continue à chercher. Il s'aperçoit que, quelque part, à trop vouloir en montrer, eh bien, on dilue son sujet. Comment peindre l'essence quand on essaie de représenter la nature dans son ensemble ? Et donc, de la même manière que Monet va abandonner ses vues panoramiques pour se concentrer sur ses fleurs de nymphéa, il va délaisser les visions panoramiques traditionnelles pour se concentrer sur un motif. Et donc, ce sera le moulin, l'arbre et la sélection de moulins qui est au musée Marmottan, est extraordinaire.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Figuratif, une histoire inconnue au musée Marmottan-Monet jusqu'au 26 janvier. Et je suis avec la commissaire de l'exposition, Marianne Mathieu. Si vous n'habitez pas Paris, voilà une bonne occasion de passer par la capitale. C'est un très beau musée, par ailleurs, dans le 16e arrondissement. Mais cette exposition, elle est assez révolutionnaire parce que certaines de ses œuvres n'ont jamais été montrées à Paris, je crois.
Une majorité des œuvres n'a jamais été montrée à Paris. Beaucoup d'œuvres viennent à titre absolument exceptionnel. Car effectivement, c'est une exposition unique et la réunion d'œuvres clés est quelque chose qui ne se reverra plus. Et c'est pour nous un enchantement d'avoir ces moulins dont on parlait, mais qui sont différents, aucun ne se ressemble. Tous ensemble, c'est l'imaginer qu'un musée se départisse de l'ensemble de ses chefs-d'œuvre. Et donc c'est effectivement une occasion absolument unique.
Et la réussite de cette exposition, c'est dans son installation, parce que il y a l'évolution de Mandrian à travers la déambulation que vous avez imaginée pour cette exposition, Marianne Mathieu.
Oui, l'idée, c'est de finalement de parcourir avec Mondrian son chemin et de voir que sa peinture est extrêmement cohérente. Alors on discutait, on s'est arrêté sur ce recadrage auprès du motif. Et qu'est-ce que va faire Mondrian ? Ben, il va chercher. Alors, il cherche la force expressive de la couleur et on a un moulin dans la clarté du soleil qui est une œuvre luministe avec des touches de jaune, de rouge, expressive, absolument extraordinaire. Et là, Mondrian touche du doigt quelque chose. C'est la notion du rayonnement. Il se dit « Ah, ça doit vibrer !» Alors quand on voit cette œuvre, c'est évident, hein, c'est un feu d'artifice de rayons. Mais ce principe du rayonnement, cette sensation, va devenir le curseur qui va permettre à Mondrian de concevoir qu'une œuvre est réussie ou ratée, qu'elle soit figurative ou qu'elle soit abstraite. Il y a une deuxième chose qui se passe, c'est qu'il se recentre sur le sujet, sur le motif, et là il va essayer d'explorer son sujet, son motif au maximum. J'allais dire de l'épurer, il déshabille la peinture. Donc on est en 1909, en 1911 il continue à étudier son sujet, on a et là, Zélande, des choses extraordinaires.
Mais son goût pour l'abstraction, on le voit déjà là, à cette période, non ?
C'est pas un goût pour l'abstraction, c'est un goût pour l'essence. Il essaie de peindre cette essence alors dans le rayonnement. Alors, il simplifie, il déshabille la peinture. Et de plus en plus, eh bien, les vues panoramiques n'existent plus, on resserre le sujet, et de plus en plus, eh bien, les formes se simplifient. Donc il est dans une mission de déshabillage de la peinture. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'abstraction ? Mondrian, il est aux Pays-Bas. Il a très peu d'accès à la peinture des écoles européennes. Il la connaît de manière livresque. Et notamment, en 1911, il lit des comptes rendus d'expositions cubistes. Il dit « c'est formidable, les cubistes ont exactement le même projet que moi, c'est-à-dire représenter un objet dans toute sa réalité ». Et donc, eux passent par la parcellisation, l'éclatement des formes pour les représenter sur une surface plane. Ils donnent une première interprétation livresque. On a deux tableaux absolument magnifiques, pétants de couleurs, où on éclate, on a l'impression d'avoir des éclats de verre dans les tableaux. C'est extraordinaire, c'est décoratif. Il se dit, je vais quand même aller à Paris voir ce qui se passe. Et il arrive à Paris, il découvre la peinture cubiste. Et il faut imaginer un homme qui arrive et qui prend une discussion en route. Donc il fait comme les cubistes, c'est-à-dire qu'il met la couleur entre parenthèses et il passe en 6 mois de couleurs rouge, bleu, jaune à des camailleux. Et puis il va décomposer la forme. Donc on est en 1911, 1912, 1913, il continue et comme les cubistes, eh bien, il arrive au moment où de plus en plus on simplifie la peinture et on ne reconnaît plus le modèle initial. On s'inspire toujours de quelque chose. Mondrian s'inspirera à Paris, notamment, de tous les dessins qu'il a pu rapporter avec lui de Hollande. Il travaille les eucalyptus, il travaille les arbres, et on a une succession d'arbres. Mais que font les cubistes? C'est qu'à un moment, ils disent « nous devenons abstraits ». Et nous ne sommes pas des peintres abstraits, donc nous devrons réintégrer la réalité. Et c'est ce moment-là où on voit dans les toiles de Braque et de Picasso le détail d'un bout de journal. Or, Mondrian n'est pas un peintre de l'anecdotique, n'est pas un peintre du pittoresque. Et là, il se dit, l'idée est bonne, les moyens ne sont pas les bons, il se trompe. Alors il y a une grande rupture dans la vie de Mondrian, c'est la Première Guerre mondiale. Au moment de la Première Guerre mondiale, Mondrian n'est plus à Paris. Il est, j'allais dire, collé aux Pays-Bas pendant 5 ans. Il va continuer seul cette recherche. Et il va rencontrer un collectionneur qui sera son plus grand collectionneur, qui s'appelle Salomon Slaper, qui va lui sauver la vie, qui va changer sa vie, et pour lequel, d'ailleurs, il va faire d'extraordinaires peinture figurative. Et bien postérieure au tableau qu'on vient de décrire, en 1916, en 1917, il nous donne des visions nocturnes de moulins qui sont mais extraordinaires.
Il est habité par quoi, Mondrian, à cette période de sa vie? Parce qu'il y a quelque chose du mysticisme qu'on peut sentir à travers ces tableaux, Marianne Mathieu.
Mais il est mystique toute sa vie. Il est mystique du premier jour de sa vie au dernier jour de sa vie. C'est d'ailleurs le fils d'un pasteur. Il a évolué dans un milieu religieux extrêmement présent, extrêmement fort. Il est appelé par la théosophie, qui fait une synthèse de la religion, de la spiritualité. Et donc le propos de la peinture, c'est bien de représenter quelque chose de spirituel, ce souffle de vie qui habite le paysage, qui nous habite. Et donc, comment représenter ce qui n'a pas de forme, mais ce qui est pourtant vivant? Et c'est ça son projet. Et toutes les peintures de Mondrian ont le même objet. Il a le même projet artistique. C'est pour ça que Mondrian peut, sans se trahir, peindre des peintures figuratives et des peintures abstraites. Il l'écrit lui-même, il le dit. Le projet est le même, c'est la forme qui change. Et donc il est pur, il précise son sujet, et finalement sa peinture abstraite n'est qu'une précision de sa peinture figurative.
Sauf qu'il y a autre chose, parce que tout ça se tient, Marianne Mathieu, mais il va être aussi un portraitiste. Et là, on est dans autre chose, y compris à travers ces autoportraits qu'on voit dans cette exposition à différentes périodes de sa vie.
Alors oui, alors il est un portraitiste. Il est son propre portraitiste et il est un peintre figuratif. C'est-à-dire que chaque section de l'exposition est accompagnée d'autoportraits de Mondrian, qu'il a sélectionné lui-même, qu'il a décidé de conserver, qu'il réservait avec son collectionneur pour un musée. Et donc lorsqu'il fait cette peinture luministe, éclatante de lumière, on a l'impression d'un beatnik. Il est d'ailleurs très très beau, il est ténébreux, le regard extrêmement expressif, il est barbu, et on le décrit d'ailleurs à cette époque sur les plages en disant ce fou de Mondrian qui était en train de faire la position du lotus. Et lorsqu'il arrive à Paris, eh bien Mondrian, c'est là où il va mettre entre parenthèses la couleur, il va tenir sa peinture. Eh bien il se tient lui-même et il change d'apparence. Hein, c'est le Mondrian qu'on connaît. Juste une dernière chose, lorsqu'il fait son autoportrait de peintre, l'autoportrait qui doit le représenter en tant que maître, c'est l'année où il a fait sa première peinture abstraite, il représente dans l'arrière-fond du tableau cette peinture abstraite, et nous présentons les deux en vis-à-vis dans l'exposition, mais il est hors de question pour Mondrian de se représenter à travers une ligne et une couleur. Il se représente dans la grande tradition naturaliste. Et on a l'impression d'un autoportrait à la Poussin. Il s'inscrit parmi les maîtres de chair et de sang.
Dans cette exposition, c'est justement ce que vous venez de dire d'une manière remarquable, Marianne Mathieu, c'est à chaque fois rappeler que Mondrian n'est pas seulement le Mondrian qu'on connaît, n'est pas seulement le grand artiste des peintures abstraites aux lignes épurées, ses carrés rouges, jaunes et bleus.
Il n'est pas que cet artiste, et d'ailleurs de ces peintures rouges, jaunes et bleues que vous décrivez, il n'y en a qu'une. C'est la dernière de l'exposition.
Mais est-ce à dire que c'est l'aboutissement de tout ce qu'il avait fait auparavant ?
Mais bien évidemment. Quand je dis il déshabille la peinture, il déshabille le motif. Finalement, quand vous prenez votre moulin, que reste-t-il à la fin quand vous avez tiré la substantifique moelle de votre motif, du moulin ou de l'arbre ? Il vous reste une ligne. Droite, horizontale, en biais. Une fois que vous avez cherché la couleur, que vous reste-t-il dans votre matériel de peintre ? Il vous reste les couleurs primaires, le noir et le blanc, parce qu'avec ces cinq couleurs, on peut retranscrire l'intégralité du prisme chromatique. Donc là, il a déshabillé la peinture. Comment faire pour lui donner vie ? Eh bien, on lui donne vie. Je vais vous prendre une image. Nous sommes là, assis dans ce studio, et on a l'air de gens très bien, extrêmement équilibrés. Pourtant, on s'est levé ce matin, on était fatigués, on a chacun nos problèmes, on a aussi nos forces, et on essaie de créer cet équilibre. Et donc, cet équilibre ne se voit pas, mais pourtant, nous sommes en mouvement intérieur. Eh bien, c'est ça que Mondrian va peindre. Parce que ces lignes qu'il peint, ce qu'on pense être des carrés ne sont pas des carrés. Rien n'est droit, il n'y a pas d'angle droit. La couleur qu'il applique, il l'applique de manière vibrante. Et c'est ce mouvement imperceptible que l'on n'arrive pas à identifier qui pourtant donne à cette peinture tout son sens et toute cette valeur. C'est pour ça qu'apprécier un Mondrian abstrait, c'est voir un Mondrian de visu. On ne peut pas juger un Mondrian si on ne voit pas la peinture. On ne peut pas juger ces Mondrians parce que c'est cette vibration, c'est ce travail de peintre qui fait sa signification. Et c'est pour ça que Mondrian n'est pas uniquement un intellectuel, mais qu'il est avant tout un peintre-peintre.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Mondrian figuratif, une histoire inconnue, c'est au musée Marmottan-Monet à Paris et c'est jusqu'au 26 janvier. Merci à la commissaire de l'exposition, Marianne Mathieu, d'être venue ce matin nous éclairer. J'espère que ça va vous donner envie de passer par Paris, si vous n'habitez pas Paris, pour cette exposition qui vaut vraiment le détour. Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard et que ce matin à la prise de son Nicolas Delmas. Bonne matinée sur France Culture. On se retrouve demain.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Aujourd'hui, Edward Snowden, ancien de la CIA, connu pour avoir dénoncé la surveillance des communications par les services américains, publie ses mémoires dans le monde entier. C'est lui qui a popularisé le terme de lanceur d'alerte. Mais cette expression n'est pas pour autant précisément définie. Alors, qui est lanceur d'alerte aujourd'hui ? Le sommes-nous tous ? C'est la question que pose Le Temps du Débat ce mardi.
Le Temps du Débat, ce mardi à 18h20 et sur franceculture.fr. Sur France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Et c'est la rentrée pour Par les temps qui courent. Tous les soirs, toujours une heure de conversation avec les artistes. On aura la joie de recevoir l'auteur québécois, tout jeune, Kevin Lambert, le très confirmé Oxmo Puccino. L'Autriche choisie par l'Obs et France Culture, Monica Sabolo. La chorégraphe espagnole, Larry Bott, à l'honneur du Festival d'automne. Et Melville Poupeau pour une grande rétrospective au Forum des Images à Paris.
Par les temps qui courent, de lundi à vendredi à 21h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les Israéliens voteront aujourd'hui, mardi, pour la deuxième fois dans l'année. Équation difficile pour le Premier ministre sortant de droite, Benjamin Netanyahou. Il affronte, comme en avril, le centriste Benny Gantz. L'abstention, notamment chez les Arabes d'Israël, pourrait être cruciale. Nous irons sur place. Dans ce journal aussi, direction l'Algérie, où une nouvelle manifestation d'étudiants est prévue ce matin. Ils refusent l'organisation d'élections le 12 décembre prochain. Enfin, en France, Emmanuel Macron assure vouloir regarder en face le sujet de l'immigration. Il désigne un adversaire à 6 mois des municipales, le Rassemblement national. Le président le disait hier devant la majorité. C'est donc jour d'élection aujourd'hui en Israël, les deuxièmes législatives en 5 mois, avec l'espoir cette fois de trouver un gouvernement de coalition. Israël compte 9 millions d'habitants, dont environ 20% d'Arabes. Un poids suffisant pour faire basculer une élection, mais traditionnellement cette communauté vote peu et se sent encore mal insérée, 71 ans après la fondation de l'État juif. Le centriste Benny Gantz aimerait les attirer vers lui pour battre le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, qui est au pouvoir sans interruption depuis 10 ans maintenant. Pour France Culture, Frédéric Mettezo s'est rendu dans le sud d'Israël où les Arabes constituent une minorité importante.
Rahat, 69 000 habitants, est peuplé quasi exclusivement de bédouins sédentarisés. Le taux de chômage atteint les 17% contre 4% au niveau national. Pour Majdi, 30 ans, étudiant en médecine, les inégalités sont profondes et elles commencent très tôt.
Les étudiants, tous les gens ici sont moins égaux que les étudiants de, vous savez, l'autre partie du pays. La plupart des étudiants ici veulent atteindre le plus haut niveau. Nous ne sommes pas la périphérie, nous sommes le centre.
Benny Gantz est venu faire campagne ici. L'accueil a été chaleureux. Salé, cadre d'entreprise, apprécie le candidat centriste.
C'est un homme bon. Peut-être qu'il va nous changer de Bibi Netanyahou, ce fou qui n'aime pas les Arabes. Je suis israélien, j'appartiens à cette terre, j'appartiens seulement à Israël.
Une forte mobilisation de l'électorat arabe pourrait décider du résultat final, mais l'abstention risque d'être forte, regrette Alehan Alkernaoui. Il est professeur à l'université du Negev.
J'encourage les gens à voter, je veux voir du changement. On détruit nos maisons, on nous marginalise. On ne partage pas les richesses équitablement entre Arabes et Juifs. Il y a beaucoup de déceptions chez les Arabes ici. Je pense qu'environ 50% iront voter, malheureusement.
Durant toute sa campagne, Netanyahou a accusé les électeurs israéliens arabes de fraude. Leurs bureaux de vote seront très surveillés aujourd'hui.
Frédéric Mettezo en Israël, avec qui nous suivrons régulièrement ce vote organisé donc aujourd'hui. En Algérie, la présidentielle pourrait avoir lieu le 12 décembre prochain sur décision des autorités. Mais, et cela était prévisible, une partie de la société civile algérienne ne semble pas convaincue que l'élection soit la bonne solution. Elle se bat depuis le mois d'avril et l'éviction d'Abdelaziz Bouteflika pour avoir plus de pouvoir et elle refuse donc de participer pour le moment au scrutin de décembre. Leïla Berato a rencontré certains représentants de la contestation.
Il était favorable au dialogue, voire à une présidentielle, mais Soufiane Djilali, président du parti d'opposition Jil Jadid, y mettait certaines conditions, des conditions qui, selon lui, ne sont pas remplies aujourd'hui.
Il y a une telle méfiance, il y a une telle rupture de confiance que les Algériens ont le sentiment que le pouvoir, encore une fois, veut décider à leur place qui serait le futur président. Les règles du jeu n'étant pas claires, la rue, à l'évidence, refusera cette élection.
Au sein des manifestants et des militants, l'annonce a provoqué beaucoup de colère. Pour Imen, médecin, il n'est pas question d'arrêter de manifester.
C'est pas l'idée de on passe aux élections, c'est comment ils présentent ça en disant que les conditions sont toutes réunies pour aller vers un scrutin, alors qu'on sait pertinemment que les conditions ne sont pas réunies. On continue à mépriser le peuple et on continue à mépriser cette révolution.
La principale critique est celle du manque de légitimité, du manque de transparence des instances qui seront chargées d'organiser le scrutin. Des petits rassemblements ont eu lieu dans quelques villes du pays pour le dénoncer. Ce mardi, les étudiants organisent une nouvelle manifestation à travers le pays et elle devrait donner le ton de la réponse des Algériens.
Trois jours après les attaques menées contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, les États-Unis continuent de pointer du doigt la responsabilité de Téhéran. Hier, le président Donald Trump s'est tout de même montré prudent. Il attend, dit-il, encore les conclusions de Riyad. La région du Golfe encore, et cette information de la cellule investigation de Radio France ce matin. Une frégate saoudienne entretenue par la France a été identifiée au large du Yémen. Elle est impliquée dans le blocus du pays. Information à retrouver sur franceculture.fr et dans le journal de 7h. Tout à l'heure. Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux parlementaires de la majorité. Les députés et sénateurs de La République En Marche et du Modem avaient été invités à se réunir au ministère des Relations avec le Parlement pour se projeter vers la deuxième partie du quinquennat. Le président de la République a insisté devant eux sur l'importance de maîtriser l'immigration et de ne pas laisser ces questions au Rassemblement national. Le député La République En Marche du Val-d'Oise, Aurélien Taché, l'évoquait hier lors du journal de 22h sur France Culture.
Effectivement, le président de la République a rappelé que quand on était confronté à des échéances électorales, quand on devait mener une bataille, il valait mieux être uni que divisé. Et c'est évidemment le cas pour les élections municipales, à Paris comme ailleurs d'ailleurs. Mais plus globalement, moi ce que je retiens du message du président de la République, c'est que finalement, on doit être unis dans un combat dont l'adversaire principal est ceux qui aujourd'hui prônent finalement un repli, une société fermée où on sortirait de l'Europe, ou en tout cas la France n'y trouverait pas sa place, où on aurait bien ces conservateurs, ces populistes, le Front National qui continuent de progresser et de faire avancer leurs idées, et que notre responsabilité était de proposer un projet de société qui amène des réponses qui détournent les Français de celles qu'amènent ces nationalistes qui veulent le déclin de notre pays.
Des propos recueillis par Antoine Geoffin. Avocats, personnels navigants, infirmières, médecins, les représentants des professions libérales étaient hier dans la rue par milliers pour s'opposer à la réforme des retraites qui mettrait fin à leur caisse autonome. Dans le cortège notamment, Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Il appelait à manifester de nouveau ce samedi. Il veut préparer la convergence avec d'autres syndicats.
Chaque président de la République, depuis 1993, a fait sa réforme des retraites. Et on a l'expérience que ce soit en 2003 ou en 2010, les manifestations de rue, même aussi réussies soient-elles, ne suffisent pas à faire entendre raison à nos interlocuteurs. FO appelle à un rassemblement le 21 septembre. On sait très bien que le soir du 21 septembre, ça n'aura pas suffi à faire changer d'avis le gouvernement. On sait que si on veut empêcher la mise en œuvre de ce régime unique par points, il faudra être capable de coaliser le plus grand nombre, et en particulier le plus grand nombre de salariés. Donc c'est un processus qui se met en place. Il faudra aussi que l'on convainque le maximum des principales organisations syndicales de salariés. Moi, j'ai en tête d'aller vers la possibilité d'une unité d'action syndicale la plus large. Donc je suis en contact avec la CGT. Je ne perds pas le contact avec la CFDT, même si elle s'est inscrite elle-même dans le processus du système universel. Donc il faut rechercher d'abord le plus grand nombre, et à un moment donné, si nous ne sommes pas entendus, cesser le travail ensemble le plus largement possible. C'est le moyen d'action historique des salariés, et pour Force ouvrière, nous y sommes prêts, et nous serons prêts à aller sur un appel à la grève si nécessaire, si nous ne sommes pas entendus.
Yves Verrier de Force ouvrière, il répondait à Marie Viennot. C'est un jugement qui sera sans doute étudié dans les écoles de droit. Hier soir, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé deux décrocheurs d'un portrait d'Emmanuel Macron. Ils étaient poursuivis pour vol en réunion. Pour les relaxer, le juge a évoqué un motif de légitimité face à l'urgence du dérèglement climatique. Le parquet a fait appel de cette décision. Lui enchaîne les recours. Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Il est cette fois devant la Cour de cassation qui va examiner sa demande. L'ancien président avec 13 autres protagonistes avait été renvoyé en correctionnel pour financement illégal de campagne électorale. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour avoir dépassé le plafond autorisé lors d'une campagne, plafond de 20 millions d'euros, ce qu'il conteste, Florence Turme.
La défense de l'ancien président de la République aura activé tous les recours possibles prévus par la loi, non seulement pendant toute la durée de l'instruction, mais aussi depuis la décision de renvoi il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Après un premier appel rejeté en octobre dernier, Nicolas Sarkozy a brandi le principe du non bis in idem, selon lequel une personne ne peut être sanctionnée 2 fois pour les mêmes faits. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, mais en mai dernier, les sages ont rejeté la QPC en estimant que l'ancien président pouvait être poursuivi pénalement malgré la sanction financière prononcée à son encontre pour les dépenses excessives de la présidentielle de 2012. La facture totale frôlait les 43 millions d'euros, près du double des montants autorisés. Le dossier revient donc aujourd'hui devant cette même Cour de cassation qui devra trancher sur d'autres moyens soulevés par la défense, notamment le fait que l'ordonnance de renvoi n'avait été signée que par l'un des 2 juges d'instruction chargés de l'affaire. C'est pour Nicolas Sarkozy la dernière chance d'éviter un nouveau procès, la justice ayant définitivement validé son renvoi en correctionnel pour corruption active et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert.
Ce mardi sera encore estival en France métropolitaine avec un grand soleil sur la moitié sud, quelques belles éclaircies au nord et ce matin comptez 17 degrés à Lille, 19 à Paris, 26 déjà à Perpignan. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, pardon.
Et Jacques, un triste décompte pour débuter votre journal des idées ce matin. On déplore depuis hier le 105e féminicide de l'année en France.
Oui. Sans connaître ce dernier cas, la dramaturge américaine Eve Ensler, auteure notamment de la pièce « Les monologues du vagin », s'insurge dans le monde contre cette forme extrême de violence envers les femmes qu'elle analyse comme un symptôme de notre société patriarcale et plus largement du système qui produit les inégalités, la crise du climat, le racisme, liées à l'immigration, l'homophobie. Elle parle de convergence des oppressions. La mise en œuvre de politiques en faveur du climat et dans le domaine de l'accueil des réfugiés est directement liée à la lutte contre les violences faites aux femmes qui sont toujours les plus touchées par ces crises. Le fond de son raisonnement est que la manière dont certains hommes au pouvoir traitent notre planète est la même que celle dont ils voient les femmes. Et elle évoque le Centre pour les victimes de viols de guerre en République démocratique du Congo, créé avec le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, la cité de la joie, un lieu où elles peuvent reprendre des forces et trouver une voie de guérison en apprenant leurs droits. Là, elles acquièrent aussi la capacité de changer leur communauté. L'idée de transformer la douleur des femmes en pouvoir représente un modèle puissant qui peut être reproduit partout dans le monde, conclut Eve Ensler. Dans l'Obs, Heide Göttner-Abendroth témoigne en faveur des sociétés matriarcales qu'elle a longuement enquêté de par le monde. Ces sociétés ne sont pas dominées par les femmes au sens où les nôtres le sont par les hommes, explique-t-elle. Elles sont égalitaires, sans hiérarchie. Simplement, les femmes ont la capacité de donner la vie et pour cette raison font l'objet d'un grand respect et d'une vénération d'où dérivent les valeurs morales et spirituelles, des valeurs morales fondamentalement différentes des nôtres. Son livre « Les sociétés matriarcales, recherche sur les cultures autochtones à travers le monde » apparaître le 19 septembre aux éditions des Femmes et j'y reviendrai le moment venu parce que c'est une somme constituée par une véritable somme donc par ces nombreuses enquêtes de terrain, les Iroquois, les Musuos du sud-ouest de la Chine, les Kuna de Colombie, des peuples de Polynésie ou du Mexique ainsi que par l'étude de la documentation ethnologique et archéologique, celle aussi des journalistes, voyageurs et aventuriers. Dans ces sociétés matriarcales, les rôles ne sont pas fixés en fonction du genre. Dans les îles Tonga, en Polynésie par exemple, écrit-elle, les hommes prennent soin des enfants, préparent la nourriture et servent à table. Chez certains peuples, les femmes cultivent, construisent les maisons ou bien sont chamanes. Dans d'autres, ce sont des tâches masculines. Elle explique notamment les nombreuses attestations de cultes anciens rendues à des divinités féminines et au-delà à la déesse mère, notre terre commune. Sitôt que les groupes se sont sédentarisés avec l'agriculture, la question de la généalogie et de la lignée s'est posée, celle des femmes étant la seule certaine. Et lorsque les humains ont découvert la lignée maternelle, ils l'ont prolongée dans l'au-delà jusqu'à la première ancêtre, une sorte d'Ève originelle. Chaque clan vénérait son ancêtre, mais cela pouvait être aussi pardon, une rivière ou une montagne, puisque tout est sacré, chaque brin d'herbe, chaque caillou. La terre a été vue comme une grande déesse, la terre-mère, une entité sacrée dont tous les humains font partie. Heide Göttner-Abendroth insiste sur l'influence positive des comportements sociaux libérés de la hiérarchie du genre. Elle se prend à rêver que les jeunes femmes élevant seules leurs enfants et qui représentent le maillon le plus pauvre, le plus vulnérable dans nos sociétés, puissent se regrouper, choisir d'habiter les mêmes quartiers, les mêmes immeubles et changer ainsi la donne, enclencher d'autres dynamiques. Dans les pages idées de Libération, deux économistes font le bilan de la loi de janvier 2011 qui a instauré des quotas de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Antoine Robert-Hugh et Gwenaëlle Roudot observent que si elle a bien permis de briser le fameux plafond de verre à l'entrée, elle n'a pas mis fin à une forme de ségrégation en interne. Aux hommes, les domaines de la stratégie, du contrôle de l'audit ou de la nomination-rémunération des dirigeants. Aux femmes, la politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec la différence de rémunération afférente. Pourtant, une étude récente s'est intéressée à l'impact de la diversité de genre au sein des conseils sur la performance économique des entreprises européennes cotées. En cette matière, leur part compte moins que leur place, celle-ci se mesurant précisément à l'accès au comité d'audit et de nomination-rémunération. Conclusion, l'égalité réelle ne se mesure pas seulement à l'équi-répartition des sièges, mais aussi aux marges de manœuvre qui sont conférées à chacun des deux genres. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire aujourd'hui, cette question, les élections en Israël sont-elles un référendum sur la place de la religion dans la société?
Et c'est sur cette question qu'avait achoppé au printemps les discussions pour la formation d'un gouvernement sur cette question, entre autres à Victor Lieberman, l'ancien allié de Benjamin Netanyahou, lui reprochant de faire trop de concessions aux ultra-orthodoxes. Alors l'élection du mois d'avril avait confirmé la domination incontestable de la droite à la Knesset, le Parlement israélien, mais sans départager clairement deux camps qui s'affrontent au sein de cette droite, le camp laïque et le camp religieux. Nous sommes en ligne depuis Israël, plus précisément au nord de Tel Aviv. Il est une heure de plus pour vous, Denis Charby, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Denis Charby, quelle ampleur ont pris pendant la campagne ces questions de la place de la religion dans la société et dans la politique israélienne et comment elles ont pris, entre guillemets, chez les Israéliens?
Alors, vous savez, les campagnes électorales sont orchestrées par des appareils, des experts en communication politique qui fournissent à leurs clients des thèmes, des formules qui sont testées en temps réel, un peu comme des hameçons. L'opinion se laisse happer ou non, mort ou non. Et c'est vrai qu'en alternance, les campagnes politiques en Israël tournent soit autour des thèmes sécuritaires, l'intifada, le terrorisme, l'Iran, ou bien des thèmes de société. En avril dernier, le thème qui avait dominé, c'était l'indépendance de la justice, de la Cour suprême, contre le gouvernement des juges, selon la prétention de la droite. Et cette fois, c'est vrai que c'est l'affrontement entre religieux et laïcs sur le modèle de société, sur le modèle de l'État, alors c'est un affrontement qui a de profondes racines, hein. Il remonte à la création de l'État d'Israël, voire à la fondation du mouvement sioniste, hein, sur le rôle, la place, l'impact du judaïsme dans la vie publique, dans la législation. Et il est vrai que s'il y a sur ce thème-là des sujets qui font consensus, l'instauration du samedi comme jour de week-end n'a pas posé de problème. En revanche, c'est vrai que certains thèmes sont, je dirais, en quelque sorte les serpents de mer de la vie politique israélienne. Alors notamment la dispense qu'ont reçue depuis la création de l'État d'Israël, la dispense d'accomplir son service militaire uniquement réservé aux orthodoxes, cette dispense-là. Également la subvention complète de toutes leurs institutions scolaires pour qu'il y ait, sans qu'il y ait d'ailleurs le moindre contrôle sur la formation des professeurs et sur le contenu enseigné. L'interdiction des transports publics, voilà encore un thème qui a été agité durant cette campagne. Donc voilà, c'est véritablement les sujets qui sont montés. Et là, il y a eu effectivement au mois de juillet une conjoncture qui fait que le thème a pris. Pourquoi ? Parce que Netanyahou a limogé deux ministres qui avaient tenté de former une liste qui n'avait pas passé le seuil d'éligibilité, en a nommé de nouveau deux leaders d'un parti religieux très docile, très proche du Likoud, qui ont fait des déclarations, je dirais, tonitruantes et consternantes. Alors, l'un, ministre de l'Éducation, sur le fait qu'il avait lui-même pratiqué des thérapies de conversion des homosexuels. Une autre déclaration d'un autre ministre pour déclarer que la participation des jeunes filles à des unités combattantes affaiblissait l'armée, le même déclarant que son objectif est un État théocratique et qu'il s'accommode de l'État d'Israël tel qu'il est, un État sécularisé, comme un pis-aller.
Denis Charby, oui, si ce débat existe au niveau de la vie politique et dans les hautes sphères, il prend aussi dans la société. La vie médiatique israélienne a été rythmée cet été par un feuilleton autour de la question d'un concert que voulaient organiser des ultra-orthodoxes, la séparation des hommes et des femmes. Vous-même, vous êtes professeur à l'université où la question se pose très certainement, des étudiants religieux qui voudraient faire leurs études, mais qui voudraient que les hommes et les femmes soient séparés dans les amphithéâtres. Comment ce débat prend, et notamment à l'université où vous êtes?
Alors justement, c'est vrai que nous sommes dans une situation très paradoxale, c'est que ces mêmes orthodoxes qui, depuis des décennies, étudient la tradition, le Talmud, etc., se rendent bien compte qu'ils sont du coup disqualifiés sur le marché du travail puisque leur formation antérieure ne leur a pas permis de faire un baccalauréat. Et donc du coup, on constate depuis quelques années une progression du nombre d'étudiants orthodoxes qui veulent étudier à l'université pour arracher un diplôme et pouvoir être compétitifs sur le marché du travail. Seulement, ils veulent imposer leurs conditions. Car effectivement, ce qui est au cœur, et vous l'avez bien dit, ce qui est au cœur des débats, c'est pas simplement les arrangements entre les partis politiques religieux et le parti de gouvernement, quel qu'il soit, c'est effectivement la question de l'espace public. Comment s'organise l'espace public? Et là, voilà, vous me posez la question sur l'université. Nous sommes, nous, dans un véritable dilemme, même s'il y a une majorité qui estime qu'il ne faut pas enseigner à ces conditions-là, entre ceux qui disent il faut favoriser la modernisation et l'éducation de ces orthodoxes qui veulent étudier, et d'autres qui disent non, il n'est pas possible de faire des compromis pareils et d'accepter ce chantage-là. Et donc, alors c'est pas simplement d'ailleurs la séparation entre étudiants garçons et étudiants filles, c'est aussi que les garçons exigent qu'il n'y ait aucune femme qui puisse enseigner. Et là, c'est véritablement empiéter non seulement sur la liberté académique, mais sur, je dirais, les valeurs d'égalité entre hommes et femmes qui préside à la création de l'État d'Israël et au respect de la démocratie comme telle.
Donc la question est, quelles concessions faire à ces étudiants, en l'occurrence ultra-religieux, au niveau politique aussi, quelles concessions leur accorder? Et à Victor Lieberman, l'ancien allié de Benjamin Netanyahou, a beaucoup reproché au Premier ministre toutes les concessions qu'il a faites, notamment, vous en parliez, sur la question de la conscription du service militaire. Les religieux ultra-orthodoxes, est-ce que par ailleurs, ils se préoccupent de politique, d'économie, de la question palestinienne? Est-ce que la religiosité détermine une position sur le dossier palestinien?
Eh bien oui, effectivement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un thème central de campagne. On ne verra pas les partis orthodoxes faire campagne sur la question palestinienne, sur le retour à la négociation. Mais il s'est passé également une révolution, une mutation dont on n'a pas assez bien pris la mesure. C'est-à-dire que jusque dans les années 1980, les autorités rabbiniques les plus éminentes déclarait très clairement et très fermement qu'en cas de négociation, il faudrait restituer les territoires parce que la question des territoires n'est pas une priorité pour le judaïsme orthodoxe. Or, depuis une vingtaine et une trentaine d'années, avec la disparition de ces grandes autorités, de ces grandes figures qui optaient pour le compromis territorial, eh bien, aujourd'hui, je dirais que la rue orthodoxe et leurs autorités qui n'ont pas le même charisme que leurs prédécesseurs, eh bien, acquiescent. Et aujourd'hui, se situent, en fait, quand on fait des sondages sur leur positionnement par rapport à la résolution du conflit israélo-palestinien, eh bien, se situent totalement à droite. Et j'ajouterais d'ailleurs que le coup de très habile, qui avait été d'ailleurs celui d'Ariel Sharon à l'époque, donc ça remonte déjà à une vingtaine d'années, a été justement de créer deux localités ultra-orthodoxes au-delà de la ligne verte, et donc du coup a rendu en quelque sorte ces partis politiques eh bien prisonniers de cette nouvelle réalité, à savoir qu'une partie de leurs électeurs se trouve de l'autre côté de la ligne verte. Et donc en ce sens, aujourd'hui, je dirais tout le judaïsme orthodoxe qui était, je dirais, caractérisé par sa modération de peur de que les nations, que la communauté internationale se révolte contre les juifs, c'était ça leur argument fondamental, eh bien aujourd'hui, il se situe, je dirais, même à la droite du Likoud concernant la résolution, concernant le refus de négocier avec les Palestiniens et de maintenir l'intégralité de la Cisjordanie qu'ils appellent, qu'ils nomment la Judée et la Samarie. Donc oui, aujourd'hui, c'est un facteur distinctif. Plus on est religieux, plus on est en général hostile à un règlement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des laïcs qui le sont également.
À Victor Lieberman, Benny Gantz ont quand même des positions assez dures, notamment sur l'annexion du Jourdain. À Victor Lieberman, quand il était ministre de la Défense, pour laïque qu'il soit, ne défend pas des positions de dialogue avec les Palestiniens.
Tout à fait. Non. Mais en revanche, encore une fois, la variable religieuse est celle qui permet le mieux de prédire où on se situe autour de cette question-là.
Alors, vous parliez de ces religieux ultra-orthodoxes qui arrivent à l'université et ne souhaitent pas que des femmes dispensent des enseignements. Comment expliquer qu'Ayelet Shaked, cette femme qui aujourd'hui fait campagne à la tête d'une liste de coalition de droite, que cette femme ait l'appui aujourd'hui de religieux, de rabbins nationaux religieux, même si elle essaye de ne pas trop le faire savoir ou de casser cette image-là?
Alors, précisément parce qu'elle n'est pas la tête d'un parti religieux orthodoxe, généralement défini comme un parti qui ne se définit pas comme sioniste, mais au contraire, elle est à la tête de la formation politique qui représente le sionisme religieux, donc celui qui a accepté la création de l'État d'Israël, non seulement comme un bien, mais comme un devoir, comme un commandement, et donc, et où, je dirais, la question de l'égalité entre hommes et femmes est moins controversée, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, par exemple, dans ce parti-là, même s'il n'était pas à la tête, il y a toujours eu des femmes députés dans cette liste nationale religieuse, là où dans un parti orthodoxe, par définition, il n'y aura jamais de femmes, ni à la première, ni à la dernière place. Elles sont exclues de la représentation politique. En revanche, bien sûr, les orthodoxes qui, au début du siècle, interdisaient à leurs épouses d'aller voter, bien entendu que depuis 1948, elles vont voter pour permettre à ces partis orthodoxes de gagner l'élection.
Denis Charby, on arrive à la fin de cet entretien. Juste en 5 secondes, s'il vous plaît, est-ce qu'un gouvernement laïque ce serait possible aujourd'hui en Israël?
Tout à fait, c'est l'option peut-être la plus plausible. Un gouvernement d'union nationale entre le Likoud sans Netanyahou et le parti bleu-blanc, avec Lieberman comme chef d'orchestre de cette possibilité-là, de cette option-là politique qui est sur la table effectivement.
Merci beaucoup Denis Charby d'avoir été avec nous depuis le nord de Tel Aviv. Votre livre Israël et ses paradoxes est toujours disponible au Cavalier Bleu. Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la Biennale d'art contemporain de Lyon. Là où les eaux se mêlent, une 15e édition conçue comme un écosystème à la jonction de paysages biologiques, économiques et cosmogoniques. Plus de 55 artistes interrogent la nature, les reliefs et les climats changeants. La Biennale d'art contemporain de Lyon, du 18 septembre au 5 janvier, un partenariat France Culture.
6h57 sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à tous.
Votre humeur du jour, est-ce que vous êtes pour ou contre Emmanuel Ducrot?
Eh bien je suis très intéressé par cette histoire parce qu'elle est doublement édifiante. Il est question à la fois d'écologie et de médiatisation des sujets liés à l'écologie, notamment la question des pesticides et autres attributs de l'agriculture intensive versus l'agriculture bio. Alors je vous résume l'histoire pour que vous fassiez votre opinion sans prétendre à l'exhaustivité. Emmanuel Ducrot est une journaliste pour le quotidien L'Opinion. Elle défend des thèses libérales et l'agriculture productiviste. Ne rechignant pas la castagne, elle polémique notamment avec des confrères écolos, par exemple, ceux de Libération. Pour le dire schématiquement, les uns dénoncent l'usage des pesticides, une certaine agriculture productiviste. Elle, Emmanuel Ducrot, la défend. Les uns accusent cette femme d'être achetée par le lobby agroalimentaire. Elle accuse ses détracteurs d'être achetés par le lobby bio. Impossible de résumer les polémiques auxquelles a pris part Emmanuel Ducrot Ducrot. Autant résumer le conflit israélo-palestinien, comme vous tentiez de le faire, Julie. Disons en substance que la bataille a lieu pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux, polémiques, sur la nocivité de telle substance, le parti pris des uns et des autres. Emmanuel Ducrot attaque Élise Lucet, cache investigation, les accusant notamment de ne rien comprendre à la science et pire, si affinité. Emmanuel Ducrot devient une héroïne pour les uns, un troll pour les autres, quand Libération évoque un ménage, vous savez, et ses travaux rémunérés en dehors du journalisme qu'un journaliste peut faire. Emmanuel Ducrot en aurait fait un, la présentant ainsi comme étant stipendiée par le lobby agroalimentaire. La bataille reprend de plus belle, les coups pleuvent par tweet interposé quand soudain, un journaliste de Libération annonce que le compte qui le troll régulièrement et méchamment sur Twitter est fort probablement animé par Emmanuel Ducrot elle-même, Emmanuel Ducrot devenant une sorte de ligue du LOL à elle toute seule. Depuis lors, la planète se divise entre pro et anti-Emmanuel Ducrot, faisant assaut d'arguments pour savoir qui est harceleuse et qui est harcelé. Alors par exemple, Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image est d'un côté, Géraldine Vestmer du magazine Le Point est de l'autre. Vous, vous en savez assez pour pouvoir vous faire votre opinion sur un épisode parfaitement représentatif de notre époque et des débats qui s'y déroulent. Mais attention, sur un tel sujet, vous ne pourrez pas demeurer neutre très longtemps.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui dans les matins, Alain Finkielkraut, la fabrique d'un intellectuel. Il publie un ouvrage autobiographique à la première personne et c'est chez Gallimard. En attendant, il est 7h et je vous souhaite un excellent réveil sur France Culture.